Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. De tout temps, l'être humain a ressenti la nécessité de se raconter des histoires. Certaines sont devenues des mythes, d'autres des contes. Eh bien, c'est ce rapport entre les mythes et les contes que nous allons tenter aujourd'hui d'éclairer. Mais avant toute chose, docteur Dominique Desmichel, dites-nous pourquoi vous avez choisi de vous pencher sur ce thème.
En fait, il m'est venu du travail que l'on fait un petit peu ensemble sur les contes. Le point de départ, c'était cette série d'émissions qui a commencé à être diffusée à partir de l'année dernière, je crois, et pendant l'été, et de ce travail de réflexion sur les contes. Et en relisant les contes que j'avais un peu oubliés, mais que tout le monde, que nous tous nous connaissons quand même un petit peu, ou même beaucoup, je me suis aperçu de la profondeur de leur enseignement et leur côté, au fond, très... très didactique, on pourrait dire, hein, très éducatif, au fond, dans une dimension très, très riche et extrêmement profonde. Et puis, d'un autre côté, je m'interrogeais et je m'intéressais aussi aux grands mythes, c'est-à-dire essentiellement les mythes grecs. Hein.
Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps, ça.
Oui, du côté de la psychanalyse, il y a quelques grands mythes qui sont fondamentaux. Par exemple, le mythe d'Œdipe, même si probablement il n'est pas très très bien compris. D'une part parce que Freud en a fait quelque chose qui est quand même relativement bien éloigné des propos de Sophocle. Et deuxièmement parce qu'il me semble qu'il y a une lecture psychanalytique qui n'est pas très juste par rapport à ce texte-là. Et puis aussi parce que dans le mythe comme dans le conte, il y a quelque chose au fond de la structure du psychisme, de la structure de l'humain qui transparaît en permanence.
Alors voilà ce que nous allons essayer d'aborder durant ces deux émissions, le rapport entre le mythe et le conte. Alors commençons par le mythe peut-être. Quelle est la définition du mythe pour vous ? Comment l'aborder ?
Le mythe, c'est un récit ancien qui a été écrit par des gens qu'on appelle des mythographes, hein, c'est-à-dire qui écrivent les mythes simplement, et ces mythes appartiennent à pratiquement toutes les sociétés. On va reprendre un tout petit peu l'espace dans lequel se déploient les mythes. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'origine de la mythologie tient probablement à une double nécessité. D'une part, essayer de comprendre ce qui nous arrive, en gros, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, quel est le sens de l'existence, hein, pour reprendre par exemple le grand questionnement de Kant par exemple. Et puis aussi, deuxièmement, écrire une histoire, raconter une histoire. Parce que dans ce récit-là, on met en scène des personnages et que cette mise en scène et la dramaturgie qui se déploie au cours du mythe vient raconter quelque chose de nous-mêmes.
Ce fait de raconter des histoires, ça remonterait à la nuit des temps. C'est à la fois, j'imagine, aussi la relation entre les êtres humains, le besoin de se raconter, et bien sûr le besoin de se rassurer en s'expliquant les grands phénomènes naturels, ou comme la vie, la mort, etc. Quoi.
Voilà, c'est ça. Je crois que raconter des histoires, faire des récits, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel à notre condition humaine. Au fond, c'est la narration qui fait l'histoire. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas véritablement d'histoire s'il n'y a pas un récit de l'histoire. Il y a ce que l'on vit, voilà, au quotidien, mais ça va faire histoire à partir du moment où on l'a mémorisé et on va le raconter et le partager avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est donc sur le plan du récit. Et puis, sur le plan de la finalité, l'idée, c'est d'essayer de donner du sens à tout ce qu'on vit, c'est-à-dire à nos origines, aux énigmes de la vie, à tout ce qui nous entoure. Et ça, naturellement, nous tous, on a très envie d'être des récitants, des raconteurs, et on s'invente des histoires ou on refait une histoire à partir de ce que l'on a vécu.
Alors on va enjamber la frontière, vu que c'est le but de notre émission, pour aller voir du côté des contes. Eux aussi sont des récits, et eux aussi répondent aux besoins de se raconter, de raconter des histoires, et puis peut-être aussi de partager autour du feu de la veillée.
Oui, tout à fait, tout à fait. On sent qu'il y a déjà quelque chose, j'entendais presque dans votre voix qu'il y avait quelque chose qui baissait et qui ramenait à quelque chose de l'ordre de l'intime et d'un groupe. C'est vrai que le conte, c'est d'abord un récit, une histoire qui comporte parfois une part de merveilleux et qui met en scène des personnages particuliers. Dans le mythe, globalement, ce sont en général des héros. Des grands héros, la figure la plus emblématique, c'est Hercule ou Héraclès, hein, c'est le même personnage, mais on sait très bien qu'avec Superman, Batman et autres personnages contemporains, ça peut être John Wayne au Far West aussi, hein, enfin, vous voyez, chaque époque, au fond, a ses grands mythes, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes figures entre les grands mythes grecs qui ont été écrits dans la période 6e, 5e siècle, on pourrait dire avant Jésus-Christ, et puis ceux qui sont contemporains. Et puis dans le conte, on n'est pas face à ces grandes figures, on est essentiellement avec des gens de la vie de tous les jours, mais qui vont avoir et mettre en scène une action héroïque.
Alors, on va passer à la temporalité, parce que c'est bien sûr pareil un rapprochement qu'on pourrait faire entre les mythes et les contes, c'est-à-dire que tous deux se passent dans un temps hors du temps, entre guillemets.
Alors, on peut peut-être d'abord commencer par la trace peut-être très très historique, hein, c'est-à-dire quand est-ce que ça a été écrit tout ça? Alors, les mythes et les contes, je vais être très schématique ici, mais en gros, c'est pas du tout la même époque. L'essentiel des mythes ont été écrits il y a très très longtemps. Il y a des mythes mésopotamiens, il y a des mythes bibliques, il y a des mythes égyptiens, il y a des mythes grecs, bien évidemment, il y a des mythes du Moyen Âge avec les chevaliers de la Table Ronde, Tristan et Iseut. Et on sait par exemple que l'histoire autour du déluge va être, on va la retrouver dans trois grands textes, des textes mésopotamiens, on reviendra après si vous le souhaitez sur le moment où ça a été écrit, dans le récit biblique que tout le monde connaît avec le personnage central de Noé, mais aussi dans Deucalion et Pyrrha, c'est-à-dire dans un mythe grec.
Alors, vous voulez dire que ces mythes qui parlent d'un temps hors du temps sont en fait fondés sur des faits historiques? En tout cas,
Alors,
ils ont une temporalité historique, quoi. Ils ont été écrits à un moment donné et on peut retrouver cette histoire-là.
oui, dans le mythe, ce qu'il s'agit, c'est de dire quelque chose qui est important ou a été important à un certain moment, qui est en même temps difficile à comprendre, difficile à dire. Le mythe va raconter au fond une expérience humaine, on va pouvoir reprendre si vous voulez des exemples pour qu'on comprenne mieux, une expérience humaine sous couvert au fond d'une sorte de surhomme ou de quasi-divinité, voire de temps en temps de quelqu'un qui va devenir divinisé. Et son but, au fond, il est toujours transcendant dans le sens où il ne rend pas compte d'un élément factuel, d'une petite histoire locale, mais il témoigne d'un mouvement intérieur, d'un mouvement d'âme. C'est pour ça que les mythes.
Mais excusez-moi, je coupe, mais il pourrait partir d'un petit fait local. À la rigueur, on pourrait imaginer ça.
Je pense qu'il part toujours d'un fait réel, hein.
Un fait
Ça n'est
réel, voilà,
pas
c'est ça. Ouais.
un imaginaire gratuit, complètement gratuit. Je ne sais pas s'il y a un imaginaire gratuit d'ailleurs, hein. Ça a toujours une signification, mais qui a une dimension
Voilà.
d'universalité, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se joue très en profondeur et les mythes. Les grands mythes, en tout cas fondateurs de notre Occident, on pourrait dire, ils témoignent de notre psychisme, de nos désirs, de nos fantasmes, de nos angoisses, on pourrait dire en un mot, de toute la partie inconsciente qui nous habite et qui nous fonde. C'est d'ailleurs pour ça que cette étonnante continuité de présence de certains mythes ou personnages mythologiques est si active, hein. Ça dure encore parce qu'il y a quelque chose dans la mythologie qui nous est à la fois très étranger et en même temps familier, à la fois connu et mystérieux. Ça parle à nos esprits, ça parle à nos cœurs, mais il y a quelque chose qu'on pressent tout de suite comme quelque chose de vraiment essentiel.
Dans les contes aussi, on pourrait penser que la naissance de chaque histoire est liée à un fait divers, pourquoi pas?
Oui, il est un fait divers ou surtout un fait d'expérience dont la trame de fond, c'est une trame on pourrait dire universelle. Hein. Alors, on va prendre l'histoire de Blanche-Neige, qui est l'histoire, au fond, on l'a déjà vue, certains de vos auditeurs ont déjà écouté les émissions là-dessus. C'est, en gros, une histoire de rivalité entre une mère et une fille, hein, pour faire court, voilà. Donc, à partir d'un élément concret, comme vous dites, factuel, qui s'est passé pour de vrai, quelqu'un a inventé une petite histoire, ça a pu commencer, par exemple, « Ah ben, je me souviens, ton arrière-grand-mère, avec ta grand-mère, c'était pas facile tous les jours, hein, parce que ton arrière-grand-mère, elle était pas facile. Et puis, ta grand-mère non plus, elles étaient toujours en train de se chipoter. » Et puis, celui qui a entendu cette histoire, il s'est dit « Tiens, je vais en faire un petit récit. » Et puis, ce petit récit a pris de l'ampleur. Pourquoi ? Parce qu'il est venu raconter une histoire fondamentale qui est, pour ce qui nous occupe là, la rivalité entre la mère et la fille. Et on retrouve la même tension et la même dialectique dans les mythes grecs où il va y avoir une sorte de conflit. Alors les thématiques, la façon dont ça se déploie, les résolutions sont radicalement différentes entre les mythes grecs, on va dire, et puis les contes qui du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, on n'est pas du tout à la même époque, mais il y a des points qui sont communs.
And I know that everybody be happy, as happy as you and me. Cause I know, come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know that when I see you walking down the street, well, it makes me happy to see you walking. It makes my life complete. Cause I know, come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know that you and me, and I know that you and me be happy, as happy as we can be. Cause I know, come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know,
vous écoutez Radio Grand Ciel et je suis en compagnie du docteur Dominique Desmichel. Nous essayons de trouver les points communs ou peut-être les différences entre les mythes et les contes. Docteur Dominique Desmichel, vous nous avez expliqué que les mythes comme les contes partaient de faits parfois réels, parfois historiques, en tout cas qui ouvraient vers une universalité. Ces deux modes d'expression sont aussi forcément liés à une évolution, c'est-à-dire que les contes, c'est de l'oralité, donc ils évoluent au fur et à mesure des générations. Et qu'en est-il des mythes ?
Alors, oui, vous avez raison de souligner ça. Les mythes, ce sont d'abord et avant tout des récits qui sont écrits. Alors, ces mythes, ils datent de quand ? Il y a d'abord deux grands mythes fondamentaux qui sont des textes que l'on connaît. L'un s'appelle l'épopée d'Atrasis et l'autre s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Tout le monde au moins connaît l'histoire de Gilgamesh et il faut se rappeler qu'ils ont été écrits au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement ancien. Ce sont deux poèmes, en fait, c'est sous une forme poétique, qui ont été écrits en sumérien puis en acadien. On a les deux textes. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ces récits-là, c'est qu'il y a un récit de déluge. Et nous, dans la tradition, en tout cas européenne, et en particulier dans la tradition chrétienne, nous connaissons ce mythe du déluge avec le personnage de Noé dans la Genèse. Et on retrouve donc un récit identique dans un texte qui a été écrit, alors personne ne sait très très bien quand a écrit la Bible, probablement après le retour de l'Exode, on va dire, mettons pour faire très court, 5e siècle peut-être, hein, avant Jésus-Christ. Hein. Il y a des gens sûrement parmi vos invités qui sont beaucoup plus savants que moi là-dessus. Voilà. Mais on est donc 18e siècle avant Jésus-Christ, hein, 500 ans avant Jésus-Christ, et puis il y a le mythe grec, donc qui a été écrit en gros autour de la naissance de Jésus-Christ, hein, puisque c'est repris dans le texte des Métamorphoses d'Ovide, avec Pyrrha et Décalion. Alors, pour les mythes, c'est important de savoir que les mythographes eux-mêmes racontaient des récits que probablement ils avaient entendus depuis longtemps. Donc, par rapport à cette tradition orale que vous évoquez, il y avait aussi probablement des histoires qui circulaient de manière orale. D'une part parce qu'à cette époque-là, c'était encore vrai d'ailleurs au XVIIe ou XVIIIe siècle, les gens ne savaient pas lire, il n'y avait pas beaucoup de livres, très peu, en tout cas à l'époque grecque, il y en avait encore moins. Mais on connaît en tout cas ces mythographes, avec Homère qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, puis ensuite Hésiode qui va rédiger ses textes, Euripide, tout ça c'est en gros le 5e siècle. Hein. Il y a cette petite phrase qu'on dit à l'abattage de Salamine qui est en septembre 480 avant Jésus-Christ. Il semble me souvenir que c'est les Perses contre les Grecs hein, qui se battent là, enfin c'est la deuxième ou troisième guerre, je ne sais plus très bien. On dit Échille se repose, Sophocle est adolescent et Euripide vient au monde. Donc vous voyez, il y a ces trois grands personnages de la tragédie grecque qui sont à cette période-là. Et puis ensuite, tous ces grands mythes vont être repris par les Romains, puisque vous savez, ils vont latiniser en gros les dieux grecs. Même si c'est pas que du copier-coller, on change de nom, il y a aussi une sorte d'acculturation, une sorte d'actualisation dans la pensée, la philosophie, la sociologie romaine qui a été faite.
Cela ne veut pas dire que les contes n'existaient pas à cette époque. Seulement, ils n'étaient pas écrits, on est d'accord. Il y avait sûrement des histoires de l'ordre du conte qui devaient se raconter.
Oui, et puis surtout qui correspondent à une manière de penser le monde et une manière de répondre aux grandes questions de l'existence qui passait par une formulation particulière. Ou par rapport aux grandes tragédies Sophocle, Euripide et Empédocle, par exemple, hein, dont je vous rappelle, c'est une très très courte période, puisque c'est en gros au 6e siècle, au 5e siècle, ça dure moins d'un siècle, avant Jésus-Christ et avant la grande période du siècle de Périclès. Et voilà. Donc, en effet, on retrouve ce lien-là, mais une modalité très particulière d'écriture, qui est l'écriture du tragique.
Alors, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que les contes sont du domaine populaire, donc on peut dire pas moins important, mais en tout cas ils sont restés pendant très très longtemps comme quelque chose de mineur, tandis que les mythes, évidemment, parlant des dieux et des grandes batailles, sont tout de suite dans le registre majeur.
Oui, je crois que ce que vous dites est vrai. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on peut dire. C'est que d'abord, les textes des grands mythographes ou des grands écrivains de la tragédie grecque nous sont restés. Ils sont extrêmement, extrêmement anciens et en général, ils ont, en tout cas pour les textes de la tragédie grecque, ils ont une qualité littéraire quand même tout à fait extraordinaire. Même si de temps en temps, le récit concernant, les 12 travaux d'Hercule et Héraclès, de temps en temps sont racontés de manière extrêmement succincte. Voilà, il n'y a pas de fioritures, on vous raconte ce qui s'est passé, point, c'est tout, à vous de vous débrouiller avec. Hein. Les contes, eux, donc 17, 18e siècle, avec Perrault puis avec Grimm, sont des récits qui venaient aussi de traditions orales. Ils n'ont pas en général, la puissance symbolique ou la puissance d'écriture d'un Sophocle, par exemple, ou la puissance de mise en image d'Ovide, par exemple, qui raconte des tas de trucs. Quand on lit Ovide, c'est du hard, hein, quand même. Il y a de tout, il y a de la violence, il y a de la mort, il y a de la sexualité, il y a plein de choses comme ça. Donc, dans les contes, c'est une forme de récit beaucoup plus simple, beaucoup plus profane. Il y a une dimension sacrée, religieuse, au fond, dans le mythe, alors qu'il y a une dimension profane dans le conte. Mais ça n'empêche que le conte a une puissance d'évocation et une puissance de mise en scène de ce qui se joue à l'intérieur de soi-même qui est du même ordre. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Voilà le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le docteur Dominique Desmichel et moi-même. Docteur Dominique Desmichel, alors on a bien vu les origines différentes et en même temps communes entre le mythe et le conte. Pour commencer un petit peu à rentrer plus dans le vif du sujet, moi je me souviens, le conte commence toujours par « il était une fois » et les mythes parlent de temps que peu d'hommes ont vécu, même des temps avant l'homme même, avec des géants, des dieux qui gouvernaient la Terre. On est sur ces deux moyens d'expression parlent d'un temps différent de celui dans lequel on est.
Alors on pourrait peut-être reprendre de manière différenciée les deux types de récits. Parce qu'en effet, c'est pas tout à fait la même structure narrative, on pourrait dire. Le mythe, le récit d'un mythe, c'est vrai, se déploie pratiquement toujours un peu de la même façon. Il y a d'abord un problème. Il y a d'abord un conflit, il y a d'abord une quête particulière. On va revoir que dans le conte, c'est en tout cas la même chose. Par exemple, parce qu'il vaut mieux donner des exemples, ça permet de comprendre, il y a un homme qui a perdu son ami et il va du coup ne pas pouvoir supporter la mort de son ami et il va rechercher l'immortalité. Ça, c'est l'histoire de Gilgamesh avec Enkidu. Et il a perdu son meilleur ami. Il faudrait reprendre toute l'histoire parce que les dieux ont envoyé Enkidu pour atténuer le pouvoir de Gilgamesh. Et puis en fait, au lieu de s'affronter, ils vont devenir les meilleurs copains du monde. Simplement, il y en a un qui va mourir et l'autre, il va aller chercher justement Utanapishti pour lui demander s'il n'a pas quelque chose autour de pour ne pas mourir, au fond. Donc il y a cette question-là, et dans l'histoire de Gilgamesh, il y a la quête de l'immortalité. Et au fond, ça se résout avec Gilgamesh qui comprend que quoi qu'il fasse, eh ben, il va mourir. Hein. Et d'ailleurs, Utnapishtim, qui est au fond le Noé sumérien, si je puis dire, évidemment c'est un anachronisme, puisqu'en fait, Gilgamesh, c'est bien avant 15 siècles avant, ou 13 siècles avant l'histoire biblique. Mais dans les deux cas, il y a une quête d'immortalité. Dans d'autres mythes grecs, par exemple, ce sont les dieux de l'Olympe qui s'ennuient, il se passe rien, les dieux sont là tranquilles, et puis ils en ont un peu marre de s'ennuyer, et alors Zeus va demander à Prométhée, à son frère Épiméthée, mais surtout à Prométhée, de créer une nouvelle race. Et puis ça va pas être très très simple, puisqu'au fond, cette race-là, c'est-à-dire la race des humains, va commencer à faire des tas de bêtises et à embêter les dieux. Et donc vous voyez bien que dans ces deux exemples que je viens de donner, on retrouve quelque chose de fondamental. La première question autour de Gilgamesh et autour de Gilgamesh, on va dire, la première question autour de Gilgamesh, c'est pourquoi on meurt ? Voilà. Et est-ce qu'on peut essayer de réfléchir là-dessus ? Et on va construire un récit pour se dire que dans l'expérience que l'on a du deuil, c'est-à-dire j'ai perdu ma femme, mon mari, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ou pire, mon enfant, comment je peux essayer de réfléchir là-dessus ? Et ce récit va donner des éléments pour non pas avoir une réponse toute simple, mais être soutenu dans sa réflexion.
Alors, dans un conte aussi, on pourrait avoir les mêmes interrogations sur la mort de la mère, sur la mort du père, sur des problèmes de fraternité.
Je ne pense pas que la dimension fondamentalement existentielle, c'est-à-dire renvoyant aux grandes questions de l'humanité, pourquoi on est, pourquoi on meurt, pourquoi il y a la vie, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi il y a les hommes, pourquoi il y a les femmes, pourquoi il y a des guerres, par exemple. Je pense pas que ça soit très présent dans les contes. Ça, c'est présent essentiellement dans les mythes, c'est-à-dire qu'il renvoie à ces très très grandes questions, oui, existentielles.
Hein,
on va peut-être les redétailler un petit peu si vous le souhaitez. Tandis que dans les contes, il s'agit plutôt d'une échelle plus petite, extrêmement proche du quotidien, comme vous l'aviez évoqué d'ailleurs tout à l'heure dans votre introduction, c'est-à-dire des problèmes de conflit à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une petite commune, à l'intérieur d'une relation entre deux frères et deux sœurs, entre les parents et les enfants. Vous voyez, c'est pas du tout la même échelle. Donc, dans les mythes, on retrouve cette première question, cette grande question, mettons, autour de l'immortalité. Mais on peut aussi avoir une réflexion sur les grands malheurs de la nature. Hein. Si les textes sumériens, babyloniens parlent du déluge, si la Bible en parle et si les mythes grecs en parlent, probablement, comme vous le disiez tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose ? Oui, il a dû se passer quelque chose, hein, surtout au moment où on enregistre, ça ne sera peut-être pas le cas au moment où ça sera diffusé, mais au moment où on enregistre, il pleut sur la France entière. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher. Il est vraisemblable qu'il y a eu un événement qui s'est passé, peut-être de type climatique, peut-être de type psychique aussi, ce n'est pas impossible, et qu'il a fallu répondre à cette question. Donc, Le récit va venir mettre en scène cet événement déluge, ou réel, ou psychique, ou les deux, et tenter une modalité d'interprétation.
Nous voyons bien que c'est une histoire d'échelle qui différencie également le conte et le mythe. Mais nous en saurons plus dans 15 jours où nous nous retrouverons pour poursuivre cette émission. Merci docteur Dominique de Michel.
Merci.
Et à bientôt.
You might think you know her ways, but she has moments. Moments when it's hard to say what is right, sometimes wrong.